Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International en cette journée un peu particulière.
To be back to Champions League is just go back to the natural habitat.
Nous sommes comme José Mourinho, nous revenons à la maison, au palais, on peut dire même avec la compétition reine du football, la Ligue des Champions, avec sa petite musique qui charme les oreilles de tous ses acteurs. Le programme de cette première soirée est alléchant avec le PSG qui fait son entrée. Ce soir, ce sera à l'extérieur dans un stade mythique, celui de Glasgow contre le Celtic. Des Parisiens déjà sous pression, non pas pour acheter la remontada, mais pour être en démonstration avec leurs stars recrutées à prix d'or. Mais les Écossais les laisseront-ils faire comme ils l'entendent? En laisseront-ils le loisir aux Parisiens? Nous essaierons de répondre à cette question et Christophe Jousset nous aidera depuis Glasgow. Deux autres grands rendez-vous dans cette soirée de Ligue des Champions, un Barça-Juve. Le Camp Nou reçoit deux équipes qui ont bien besoin de victoires, qui ont besoin surtout de faire oublier un été tumultueux. Pareil pour le Bayern Munich qui joue à domicile face à Anderlecht, mais dans une ambiance bien morose du côté de la Bavière. Et nous vous dirons évidemment pourquoi avec l'aide d'Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il y a aussi Franck Simon de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis notre amie italienne du jour, correspondante à Paris, mais surtout il y a des clubs italiens qui jouent aujourd'hui.
Oui,
n'est-ce pas Valentina? Bonjour Valentina
bonjour
Clemente.
Annie, bonjour à tous.
Radio Foot, c'est parti.
Tout amateur de football, le Celtic, ça reste un stade et un club mythique.
C'est connu pour avoir une grosse ambiance, une grosse ferveur. Rien que le Never Walk Alone fout des frissons, donc on a tout fait pour être ici.
Frissons garantis au stade du Celtic pour les 60 000 supporters qui chantent avec tant de ferveur et ceux qui les écoutent. Les visiteurs, d'abord, ces Parisiens que vous venez d'entendre, ils seront 1500 ce soir dans le stade. Et Christophe Jousset en a croisé certains, donc. Et puis, on reçoit ces frissons aussi à travers l'écran. Il compterait d'ailleurs, ce Celtic, plus de 10 millions de supporters à travers le monde grâce à la diaspora irlandaise. Ils chanteront en tout cas ce soir pour encourager leur équipe qui est en Ligue des Champions donc et se retrouve dans le groupe B avec le Bayern Munich, Anderlecht et donc le PSG adversaire du soir. Christophe Jousset, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Christophe, vous avez déjà pris le pouls de ce stade, vous avez la chance d'être à Glasgow, d'observer finalement ce 12e homme, comme on dit parfois, celui qui peut influencer l'équipe, les acteurs, le score.
Oui, je crois que quand on a une ambiance aussi extraordinaire, enfin, pour l'instant, je ne parle que sur la réputation.
Évidemment, ils ne sont pas encore là.
Dans quelques heures, on l'aura vécu nous-mêmes et on pourra mieux en parler peut-être encore. Mais c'est vrai que l'ambiance dans le Celtic Park est tellement exceptionnelle que ça ne peut pas être neutre dans une rencontre. Ça forcément fait passer des frissons dans le dos ou sur les bras des supporters. Ça galvanise l'équipe locale, le Celtic Glasgow. Est-ce que ça perturbe l'adversaire? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on a quand même ce soir, notamment dans le rang du PSG, des joueurs qui sont habitués aussi aux grosses ambiances dans les stades et les stades adverses. Et je pense notamment aux Sud-Américains.
Il y a deux personnes dans ce studio qui ont déjà connu la ferveur, n'est-ce pas? Avant vous, Christophe. D'abord, Habib.
Pour moi, c'est le terrain d'Europe le numéro un.
en termes d'ambiance. J'ai eu la chance de faire un match de charité pour Stan Petrov, qui est une légende du côté du Celtic, parce qu'il avait été malade. Et du coup, on avait organisé un match avec certaines gloires et les anciens amis de Stan Petrov. Il y avait 60 000 personnes dans le stade. Et on avait vraiment l'impression de jouer un match de Coupe d'Europe, puisqu'il y a eu le Unilever World Cologne en début de partie. J'ai eu la chance aussi de voir un derby à Celtic Park entre les Celtic Glasgow et les Glasgow Rangers en tant que spectateur. Et je peux vous garantir que c'est énorme en termes de pression déjà pour l'adversaire.
Rien à voir avec PSG Marseille?
Ah non. Franchement, c'est bien au-dessus. J'ai eu la chance de faire un derby, c'est-à-dire Newcastle-Sunderland, et de faire un match, le Classico en France entre le PSG et Marseille, c'est bien au-dessus de ça. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable à vivre en tant qu'adversaire du Celtic et surtout en tant que spectateur.
Vous sentez les spectateurs, vous sentez.
Ah oui, non, mais c'est incroyable. Ce le You Never Walk Alone est plus impressionnant à Celtic Park qu'à Anfield, par exemple. Mais vraiment, c'est un truc incroyable à vivre.
Franck, vous aussi, vous avez eu la chance d'y être déjà dans ce Celtic Park?
Il y a bien longtemps. Mais tout de même, ce sont des bons souvenirs. C'est un grand club du football européen, même si il a plutôt son palmarès et son histoire dans le dos, en fait. Hein. C'était le premier club britannique à remporter la Coupe des Champions avant qu'elle devienne la Ligue des Champions.
La Coupe des clubs champions, voilà. En 1967, ça
exactement,
fait juste 50 ans.
Avec l'équipe de Gemmell et Jinky Johnston. Ça reste une grande maison, comme Habib vient de le raconter, avec des supporters extra, il y a beaucoup de vibrations. Et puis un club qui, quand on regarde les statistiques, qui est un habitué en fait de cette phase de poule, qui est régulièrement, c'est sa 10e apparition. Bon, on se dit que ça sera quand même compliqué de faire mieux que 3e. Hein. Et ils ont fini dernier la saison dernière de leur poule. Ils avaient quand même.
Le problème, c'est à l'extérieur. Ouais. À domicile, par contre.
À domicile, c'est difficile d'aller gratter des points.
Quoi. Voilà. Ils ont embêté City, ils ont embêté le Barça.
Oui, ils sont allés quand même en 8e de finale il y a 3 ou 4 ans.
Voilà. Ouais.
En plus, c'est vrai que la particularité de ce club, je le dis parce qu'on parle d'Irlande alors que le club se trouve en Écosse, mais c'est parce qu'il a été créé par fondé par des immigrants irlandais.
Et il est entraîné par un nord-irlandais. Brendan
voilà,
Rodgers.
Exactement. C'est ce qu'on se disait à l'heure en préparant Radio Foot. Il y a quand même tout un mélange. Même si je me souviens être un jour allé à Dublin et j'étais pas franchement pour regarder du foot à Dublin. Par contre, on se retrouve dans un café. Ils étaient tous avec leur maillot du Celtic et en fait c'était un jour de Celtic Rangers, et c'est là qu'on voyait aussi l'importance que pouvait avoir le club dans une ville d'Irlande.
Jusqu'en Afrique, puisque vous avez un club qui s'appelle le Bloemfontein Celtic, dans le Free State, qui porte les mêmes couleurs.
Sud.
En Afrique du Sud, qui porte les mêmes couleurs, et qui est aussi réputé pour la ferveur de ses supporters et des chants. On les appelle les Siwelele. C'est pour dire qu'en fait, ils ont réussi à exporter ça, y compris sur le continent africain.
Mmh. Cette passion. Alors Christophe, ce Celtic est donc une nouvelle fois dans la cour des grands parce qu'il a terminé champion d'Écosse la saison dernière, 48e titre et surtout invaincu, 34 victoires et 4 nuls, donc quelque chose d'incroyable, même si, bon, soyons honnêtes, c'est à l'échelle de l'Écosse. Il collectionne les trophées, mais son titre, comme l'a rappelé Franck, date quand même d'il y a 5 décennies. Est-ce qu'ils vont pouvoir embêter le club des stars qatariennes ce soir? Écoutons d'abord Brendan Rodgers, vous l'avez écouté hier pendant la conférence de presse et il a répondu évidemment à cette question.
C'est un match qu'on a vraiment, vraiment hâte de jouer. Le monde entier aura les yeux tournés vers ce match et il arrive au bon moment. Les joueurs ont les idées claires, ils ont travaillé et ils sont prêts à faire face à la pression. Mais surtout, il faut qu'ils profitent de ce match. Le PSG nous est évidemment supérieur, c'est la réalité. Regardez la qualité des joueurs recrutés, mais nous... Nous sommes une véritable équipe. On a la vitesse, la force, la puissance. Et c'est une belle occasion de bien nous lancer dans la compétition en faisant une belle performance.
Alors Christophe, Franck Simon, c'est le prononcé à l'écossaise, le nom de l'entraîneur.
Vous me blaguez. Non, Brendan Rodgers. Il ne doit pas être loin.
Il n'est pas loin, c'est ça?
Proche de ça, oui. Très bien.
C'est un peu rocailleux, l'accent.
Il faut s'accrocher, oui.
Ouais, Brendan Rodgers.
Alors Christophe, en écoutant Brendan Rodgers, moi je vais dire à la française, on entend finalement qu'il veut opposer à la qualité connue des stars du PSG l'esprit d'équipe.
Oui, c'est assez logique, hein, parce que toutes les équipes qui se présentent ces temps-ci face au Paris Saint-Germain ne sont pas dans le rôle de favoris et sont sous le coup de cet énorme mercato les Parisiens, sous le choc de cette armada que les Qatariens ont réussi à bâtir ces deux derniers mois. Neymar, Mbappé, Dani Alves, qui viennent renforcer Cavani, Berchiche aussi, on peut en parler, peut-être lui aussi va apporter beaucoup. Donc forcément dans le rôle de challenger et avec cette ferveur autour du Celtic Park dans les tribunes, eh bien il y a la combativité qui va avec, hein, sur le terrain. Elle est incarnée par exemple par le capitaine Scott Brown. Ce sont des joueurs qui ne lâchent rien jusqu'au bout du match, qui savent aussi qu'ils peuvent compter sur le soutien de leur public. Quoi qu'il arrive, même si il arrive aussi que le public applaudisse l'adversaire quand il le mérite, cette équipe va jouer sa carte à fond avec beaucoup beaucoup de combativité et elle a fait des dégâts. On l'a déjà évoqué, effleuré l'année dernière par exemple, Manchester City a été bousculé ici 3-0, c'était le score final. Le Barça a été battu ici, même si à l'époque ce match ne revêtait pas un énorme enjeu pour le Barça. C'était des matchs de poule. Mais bon, quand même, ce sont des signes que, ici, ça peut très bien être un match piège.
Effectivement, Habib, alors il n'y aura pas Moussa Dembélé, par exemple, hein, qui est leur petite star, mais un de ceux qui est populaire, disons, dans leur attaque. Mais surtout, il y a quand même une équipe qui, selon vous, pourrait poser des problèmes au PSG.
Moi, je pense qu'ils vont leur poser des problèmes. Le Paris Saint-Germain, depuis le début de saison, n'a pas rencontré d'équipe qui leur est rentrée dedans. À mon avis, l'impact physique va être énorme de la part du Celtic. C'est surtout qu'il y a très peu de temps mort lorsque les Celtics jouent à domicile. Ils relancent très très vite, ils mettent de l'impact, de longs ballons. On a des joueurs comme Griffiths qui est un joueur de ballon très intéressant. On a quand même Edwards qu'on a vu très puissant là face à Hamilton en championnat. Et je crois qu'ils vont ne jamais relâcher les trains sur le Paris Saint-Germain. S'ils sont pas prêts à relever ce défi physique, bien sûr que la qualité technique va être du côté du PSG. Ils vont très bien ressortir le ballon. Mais on l'a vu avec le Barça, on l'a vu avec City. Même la méthode de Guardiola a échoué là-bas parce qu'ils se font vraiment rentrer dedans dans l'impact physique. Si vous êtes pas prêt à jouer ce type de match, vous pouvez connaître des déconvenues. Et j'ai regardé un petit peu ce que font Mbappé, ce que font Neymar, je les ai regardés contre Metz, je les ai vus aussi avant. Je trouve que parfois, ils manquent d'impact physique. C'est-à-dire que c'est tellement facile pour eux de développer le football qu'ils sont un petit peu, pour moi, fainéants dans la récupération du ballon. Et face au Celtic, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir deux ou trois joueurs qui ne mettent pas l'impact physique nécessaire.
Valentina. Moi, je n'ai pas apprécié la totalité du match du Paris Saint-Germain face à Metz. Dans le sens qu'ils ont eu du mal quand même à démarrer le début.
La première mi-temps, on a vu.
Oui, c'était un peu la cata. Donc oui, globalement, ils ont fait un bon match parce que les résultats finaux, ça cache un peu les défauts de cette équipe qui est totalement déséquilibrée sous les moments. Donc,
alors ce soir-là, il était peut-être un peu volontairement déséquilibré. Bah, mais on va y venir sur le Paris Saint-Germain. Mais le Celtic.
Oui, les Celtic, à mon avis, il peut être vraiment une équipe de type piège parce que là, il peut rentrer dedans. On verra vraiment qu'est-ce que ça va donner sous les PSG.
Franck, vous avez peut-être un joueur particulier ou symbolique dont vous voudriez parler dans cette équipe?
Bon, c'est-à-dire le joueur qu'on connaît mais qui a priori ne doit pas débuter, c'est l'ancien du PSG, hein, c'est Hudson Edouard.
Oui.
Voilà, que dont on nous a vanté beaucoup.
Oui, qui a bien commencé la semaine dernière.
Voilà,
et du coup,
jeune joueur qui a 19 ans.
Commence à avoir une certaine popularité.
Voilà, il commence à avoir une certaine notoriété. Bon, a priori il est parti pour être sur le banc. Mais non, moi je suis un peu comme Habib dans le sens, je pense que c'est plus un groupe qu'autre chose. Évidemment, ils ont des individualités, mais au niveau du championnat écossais, là, je suis pas sûr que ça ressorte en Ligue des Champions. Dans tous les cas de figure, ça va être très compliqué pour le Paris Saint-Germain, au moins une heure, parce que l'impact physique, c'est une évidence dans ces championnats-là.
Alors évidemment, ce PSG est déjà sous pression, on va dire, et déjà, on sait pourquoi. Vous le disiez tout à l'heure, Christophe, c'est pas le coût de cette équipe, hein, avec ses recrutements à prix d'or. Et puis aussi, le dernier match disputé par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'était quand même du côté de Barcelone. C'était quand même un soir de mars, triste soir, cette déroute qui a collé au crampon des joueurs toute la fin de saison, oubliée ou pas. Alors, je ne sais pas si Unai Emery en a beaucoup parlé ou a voulu s'étendre pendant la conférence de presse, mais en tout cas, Thiago Silva, il a répondu à votre question, Christophe.
On a oublié déjà. Maintenant, c'est une autre chose, c'est une autre Ligue des Champions. Nous sommes préparés pour démarrer bien la Ligue des Champions. On sait tous que Cette compétition, c'est une compétition particulière et nous sommes très motivés pour débuter bien, pour essayer de jouer bien, de maîtriser le match, de porter 3 points à la maison, mais avec beaucoup de respect avec cette équipe-là qui sont habitués aussi à jouer la Ligue des Champions.
Christophe, il vous a répondu, Thiago Silva, mais est-ce qu'on en parle à Glasgow? Est-ce que les Écossais, par exemple, se souviennent du dernier fait d'armes des Parisiens?
Oui, non, j'ai pas noté un intérêt particulier dans les questions. Non, ça, c'est de.
C'est oublié.
On n'est pas sur la fin de l'aventure précédente, on est sur le début de celle de la saison qui vient juste de commencer. Et bon, alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas ressurgir, évidemment, mais c'était des huitièmes de finale. Là, c'est tout autre chose. C'est le premier match de poule et peut-être que à l'occasion des huitièmes de finale, les vieux souvenirs, enfin les souvenirs, ne seront pas si oubliés que ça, entre guillemets.
On n'oublie pas ce genre de choses. Il dit qu'il a oublié. Ça s'oublie pas. Lorsque vous êtes du genre de football et vous prenez une telle déconvenue, qu'il soit passé à autre
on
chose.
On l'entend dans les hésitations de la réponse.
Qu'il soit passé à autre chose, c'est tout à fait logique. C'est la vie d'un footballeur. D'avancer et de se dire que tout ce qui est passé derrière, il faut l'oublier. Parce que même lorsque vous gagnez, il faut oublier que vous avez gagné une Ligue des Champions. Parce qu'il faut en gagner une l'année d'après. Et c'est la force des grands champions. Mais qu'il ait oublié cette déconvenue, je ne pense pas. Et ça peut ressurgir dans des moments difficiles. Peut-être pas dans des matchs de poule parce que c'est complètement différent en termes d'approche. Mais lorsque vous arrivez en huitième de finale, si demain le PSG avait un match difficile, ce sont des choses qui peuvent vous inhiber. Maintenant, ils ont l'arrivée de Neymar, de Mbappé qui vont donner une énergie incroyable à cette équipe.
Daniel Alves,
qui a énormément d'expérience. Donc, je pense que cette équipe est beaucoup plus mature qu'elle ne l'était l'an dernier.
Franck.
Moi, je trouve que ce qui peut éventuellement les gêner, c'est le fait que les observateurs soient toujours tentés de leur donner une note artistique. Il faut toujours qu'ils gagnent, mais en plus, il faut qu'ils y mettent les formes. Et c'est vrai que c'était poussif, ça ressemblait pas à grand-chose à Metz. C'était pas génial, on s'est pas régalé. Mais même sans forcer, cette équipe est capable, de s'imposer contre une équipe qui est vrai. Bah,
il
était
a des
très
idées, comme il dit, des entrées qui changent la donne. Dans le sens, il y a une maturité aussi qui s'est installée à l'intérieur du groupe, qui les permet de dépasser un peu un cap.
Mais je suis content que Franck dise ça parce qu'on insiste sur ce problème qu'a le PSG parfois de ronronner. Mais le PSG, lorsqu'ils ronronnent, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils peuvent ronronner, parce qu'ils peuvent user l'adversaire. Il faut aussi savoir jouer de sa force et se dire qu'on n'est pas tout le temps, pendant 90 minutes, en train de produire un spectacle exceptionnel. Qui a fait ça? À part le Barça de Guardiola, peu d'équipes en Europe et peut-être l'Ajax de Cruyff a réussi pendant deux ans chaque fois enflammer tout le monde. Donc je crois que le PSG aujourd'hui a des faiblesses. Parfois, mais ça reste une équipe qui est, pour moi, très compétitive. Et comme tu le dis, je pense que ce soir, il faudra peut-être mettre de côté la note artistique et se dire qu'il faut mettre le bleu chauffe parce qu'il va y avoir en face une équipe qui va rentrer dedans et qui
sera
peut-être un petit peu plus besogneux.
On y retournera plus tard, mais quand même, la Juve, les dernières années, il a gagné en Italie, il a gagné en jouant mal souvent. Donc, c'est quelque chose qui, ça devient un peu récurrent dans le football maintenant.
Ouais.
Christophe, il y a un personnage qui est très attendu parmi les Parisiens aujourd'hui du côté du Celtic, c'est Neymar, n'est-ce pas, qui a pas toujours laissé un bon souvenir dans le public et sur la pelouse.
Ouais, Neymar, il a fait beaucoup de dégâts, il a fait beaucoup de mal même au Celtic. Alors en faisant son boulot, c'est-à-dire marquer des buts, donner des passes décisives, il a marqué 4 fois contre le Celtic ces dernières années dans les matchs de poule, mais aussi parce que il a eu affaire, il a eu maille à partir avec des adversaires, il a réussi notamment à faire expulser le capitaine Scott dont on parlait tout à l'heure une exagération, disons, hein, sur une et bon, lui, sans
doute. Il est coutumier du fait.
Apparemment, problème qu'il y avait, Lustig à qui on avait posé la question, le défenseur. Là, il s'était accroché avec lui, Lustig, le Suédois, le défenseur du Celtic, à qui on demandait qui était le meilleur acteur de l'année. Il avait dit c'est Neymar. il tombe pour rien. Voilà.
Apparemment, d'ailleurs, la plaisanterie à Glasgow, c'est qu'on cherche encore en train de se rouler autour du stade, puisqu'il avait fait une roulade après un épaule contre épaule lors de son premier match en octobre 2013, qui avait, conduit effectivement à l'exclusion du capitaine. Christophe, on se retrouve juste après la pause pour évoquer encore un petit peu cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et donc le Celtic du côté de Glasgow. Et je le dis à nos auditeurs, on vous retrouvera de toute façon tout à l'heure, tout au long de cette rencontre, puisque vous serez en direct sur RFI pour nos auditeurs africains. Pour l'instant, c'est la pause d'information. À tout de suite.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Seconde partie de Radio Foot International autour de cette Ligue des Champions qui débute donc ce soir, celle de la saison 2017-2018. Nous sommes toujours avec Franck Simon, Valentina Clemente, Habib Bey et Christophe Jousset qui est en direct avec nous de Glasgow. Alors, on évoquait tout à l'heure ce Neymar attendu de pied ferme. Ça nous faisait un peu sourire. Habib, il joue son rôle de pleureuse, comme disent les Écossais.
Je ne sais pas si c'est un rôle de pleureuse. Il prend quand même beaucoup de coups, hein, Neymar, dans un match. Donc, on peut comprendre que parfois, il en rajoute un petit peu. Ça fait aussi partie, pour moi, du bagage d'un attaquant, de jouer la comédie, parce que c'est une forme de pression sur l'arbitrage. Moi, ce que j'aime, c'est lorsque des joueurs comme ça prennent une cinquantaine de tacles par match. S'ils le font une fois, ça me dérange pas. S'ils le font 50 fois sur 50 tacles, on a envie de dire bon, arrête, comme faisait un petit peu Mathieu Valbena à l'époque. Mais on peut aussi considérer que Neymar, à force d'en prendre, il se dit bon, c'est bien, vous êtes bien gentil, mais ça fait 30 tacles que je prends et j'ai aussi à un moment donné envie que la personne soit sanctionnée. Donc moi, ça me choque pas chez Neymar. Je trouve que c'est quelqu'un de très correct dans ces moments-là.
Valentina ?
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord dans le sens. On l'a vu dans les premiers matchs aussi. Si en France, tout le monde il était sous lui. Chaque fois, il prenait pas mal de coups. Donc, à la fin, il était assez correct dans ses réactions. Après, on verra en Ligue des Champions qu'est-ce que ça va donner.
Ouais. Franck, un petit mot.
Je trouve que justement, il n'a pas été respecté en Ligue 1, où vraiment, il n'y a personne à. Il fait peur, c'est-à-dire avant d'être sur le terrain. Mais une fois qu'il est face à vous, enfin les défenseurs, jeunes vieux, ils y allaient sans se poser de questions. Et la réception qui va être la sienne tout à l'heure au Celtic Park va être pire encore parce que il y a des comptes à régler. Et eux, ils sont pas du tout dans l'observation, ils seront dans l'action et de la réaction. Donc ça va donner, je pense.
Je pense qu'on peut être sûr que dans les deux premières minutes, je pourrais parier dessus s'il y avait de l'argent.
Il va y avoir quelque chose.
Va prendre un tacle et un tacle sévère ou une petite soucousse pour lui rappeler qu'il est au Celtic Park.
Bon, Christophe, vous regarderez bien.
Welcome.
Hein, vous allez nous raconter ça.
Ouais, il va se retrouver avec son ami Lustig dans le.
Le Lustig.
Un sacré Lustig, hein. Ouais.
Et ouais. Lustig contre Lustig. Ouais.
En tout cas, Christophe, on a voulu aussi vous faire partager à vous et à vous tous un autre temps, on va dire, pour ce Paris Saint-Germain qui, une fois, est déjà allé jouer du côté du Celtic Park. C'était il y a bien longtemps.
C'est un jeu à une balle, rail encore. Un ballon qui arrive jusqu'à Loco, une frappe de Fournier, ballon repoussé. Et Loco a bien suivi et permet au Paris Saint-Germain, après 33 minutes, de mener 1-0 ici à Glasgow. Ballon qui arrive jusqu'à Youri Djorkaeff. Et puis Guerra, un centre, Loco but. Reprise de volée du plat du pied de Patrice Loco. Oh, l'aile de pigeon, Youri Djorkaeff. Qui essaye de prendre de vitesse. Le défenseur, il a levé la tête sur Djorkaeff. Il a vu Nouma et c'est un magnifique troisième but inscrit par Pascal Nouma.
Alors ça peut peut-être donner le là d'une saison ça, parce que c'est l'année où il gagne la Coupe des Coupes, le Paris Saint-Germain.
Pourquoi pas? Je suis pas sûr que.
1995, n'est-ce pas?
Unai Emery a évoqué cette perspective avant la rencontre. Hein,
et puis ils avaient une saison très difficile en championnat lorsqu'ils gagnent la Coupe des Coupes, les Parisiens. Donc vaut mieux pour le PSG d'avoir une belle saison en championnat parce que les objectifs sont relevés, mais pour moi, il n'y a pas de doute, ils sortiront de cette poule.
C'était un PSG Canal Plus avec, vous l'avez entendu encore, Patrice Loco. C'était pas le PSG des Qatariens, hein, Christophe.
Ouais, on a entendu les noms.
Mais quand même,
il y avait Raï quand même.
Djorkaeff, c'est pas rien.
Il y avait du beau monde.
Et Pascal Nouma. Et Pascal Nouma, produit du club.
Alors Christophe, on vous donne rendez-vous tout à l'heure et on donne rendez-vous à tous nos auditeurs de tous les horizons pour la retransmission du match en direct sur RFI grâce à vous à partir de 18h45.
18h45, temps universel.
Temps universel.
Et émission spéciale sur toute la première soirée de Ligue des Champions. Ce sera le fil rouge, en fait, Celtic-PSG. Et puis, quand il y aura 3-0 pour l'un ou pour l'autre, on prendra plus de temps pour les autres
Paris,
matchs.
Paris ne gagnera pas.
Voilà. Il y aura aussi.
Je me mouille.
Pronostic pour le Celtic.
Il reviendra à Bib. S'il n'y a pas ça, on va le réinviter.
Il reviendra quand même.
J'assume.
Il y aura aussi Alejandro Valente, Thomas de Saint-Léger et Xavier Barré, donc pour vous tenir compagnie à partir de 21h10 temps universel, 23h10 Radio Foot sera de nouveau sur les ondes pour analyser cette première soirée de Ligue des Champions. Merci Christophe, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Alors un autre match sur la pelouse du Camp Nou, le FC Barcelone reçoit la Juventus de Turin du côté donc de la Catalogne. Deux équipes qui ont beaucoup de points communs actuellement. Elles ressortent de l'été un peu moins fringantes. Leurs effectifs comptent un joueur en moins, mais joueur ô combien symbolique dans les deux cas. Le Barça a perdu donc l'un de ses trois attaquants du trio magique, alors que la Juve, elle, a perdu l'un des membres de sa défense, Leonardo Bonucci. Un match peut-être pour faire oublier un été pourri du côté de Barcelone. François David, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
François, parlez-nous de ce Barça, on va dire, qui sort de peut-être des urgences.
Ah bah oui, effectivement, je crois que de mémoire, parlant des supporters qui étaient là depuis 30-40 ans, jamais on a vu un été aussi chaotique au niveau du Barça. Entre le départ d'un joueur vedette, bon ça c'était déjà arrivé dans l'histoire avec Luis Figo par exemple, mais avec des retournements de situation, des joueurs qui doivent venir, je pense notamment à Jean-Michel Seri qui ne viennent pas, des joueurs qui doivent venir comme Coutinho qui ne viennent pas finalement, un président hyper contesté, et finalement en début de saison, qui est le meilleur depuis le début de l'histoire du FC Barcelone avec 3 victoires en 3 matchs, 9 buts marqués, 0 buts encaissés. Alors, on va relativiser tout de suite, Annie, parce que c'était le Betis Séville, Alavés et l'Espagnol de Barcelone. Ce soir, c'est la Juventus Turin. Alors, ce soir, c'est le vrai test pour le Barça, pour voir si c'était vraiment, si tous les maux de l'été, tous les maux hors football, entre en plus Neymar qui revient à Barcelone pour l'anniversaire de Betis, Piqué qui se fait prendre en photo, Messi aussi, donc un clash ouvert avec la direction. On va voir ce soir. Comment ça se passe. On va voir aussi les débuts, les vrais débuts, je pense, titulaires ce soir de Ousmane Dembélé, qui a fait une très très belle entrée contre l'Espagnol, victoire 5-0. Donc ça va être super intéressant, c'est la revanche aussi du quart de finale où la Juventus avait surclassé complètement le Barça l'année dernière. Donc c'est un match vraiment, vraiment excitant qu'on va voir ce soir au Camp Nou.
Valentina, dans quel état se trouvent par contre les Italiens?
Moi,
dans quel état d'esprit?
Les problèmes, c'est à peu près les mêmes, dans le sens que ces deux équipes qui arrivent avec des problèmes différents, c'est un rendez-vous aussi pour la Juve, ça devient un test très important, celui de ce soir, parce que le début du championnat, c'était pas évident, dans le sens que pour eux, l'effet d'avoir remanager la défense, c'était un problème très très
reformuler
important.
Reformuler la défense.
Oui, c'était très très important. Encore aujourd'hui, il n'y a pas un équilibre.
L'absence
de
Bonucci, c'est un peu à l'image de Neymar, c'est-à-dire c'était un joueur clé dans une équipe.
C'était la base, dans le sens la défense, la BBC, on l'appelait comme ça. C'était la clé avec Buffon pour
oui,
tous les jeux de la Juve. Et là, et aujourd'hui,
mais symboliquement, surtout, c'était le départ de ce joueur. Donc, ça a compté un peu comme Neymar. Symboliquement, le joueur qui part et qui abandonne un peu un club phare.
Surtout qu'il va à Milan.
Oui, mais les problèmes, c'est pas autant que c'est lui qui a décidé de quitter la Juve. C'est la Juve qui l'a poussé vers la porte et lui, il a choisi Milan. Il est resté en Italie pour sa famille. Mais sans, s'il avait des autres offres, il est resté en Italie et c'était l'offre plus importante. Et donc, voilà, c'est ça la vraie histoire. Il faut pas penser qu'il est allé chez l'ennemi pour.
C'est pas du Neymar, alors.
Non.
C'est pas une Neymarada, Franck.
Un petit coup de gueule parce que. Enfin, un petit coup de gueule, pas un coup de gueule, mais je constate que ni pour du côté PSG, ni là dans l'analyse, on évoque Dani Alves. Alors que c'est quand même une arrivée importante, je pense, côté Paris Saint-Germain.
Très importante.
Et je pense que
c'est
aussi une perte importante.
Très importante. Oui, Bonucci, c'est un peu l'image.
Oui, c'est le.
Plus que Evra.
Pour moi, c'est lui, Bonucci, qui incarnait le projet de la Juve dans son aspect défensif. Je trouve que c'était vraiment le leader. Il, pour moi, meilleur que Barzagli et Chiellini. C'était lui qui était dans la première relance. Et là, la Juve a perdu beaucoup avec l'absence de Bonucci parce que le jeu partait quand même de Bonucci à un certain moment.
Et aujourd'hui,
c'est
pas vraiment
il a pas retrouvé d'équilibre. Après, j'entendais le Barça sort des urgences. J'aimerais bien sortir des urgences avec cette équipe-là, personnellement.
Des urgences, François avait bien compris, c'est la crise qui s'est installée, tout ce qui s'est dit autour. C'est malheureusement, on va y venir au plan sportif parce que c'est différent.
Ouais, c'est parce que l'équipe qu'ils ont aujourd'hui, ça reste très compétitif. Et quand on voit leur début de saison, on se dit que je suis pas. Bien sûr qu'ils ont perdu beaucoup avec Neymar, mais lorsque vous récupérez un joueur comme Dembélé, que vous avez toujours Suarez et Messi, et des joueurs comme Iniesta, je pense à Busquets.
Ils sont
eu une saison très difficile l'année dernière, mais qui, je pense, va bien revenir dans ce...
L'ensemble, c'est plus fort Barcelone que la Juve. La Juve, en plus, il joue à l'extérieur ce soir. Donc, je vois un peu plus haut à risque la Juve sous les résultats complétifs que Barcelone.
Une question, d'ailleurs... François David, avant qu'on écoute l'entraîneur de cette équipe Blaugrana, comment on dit chez vous ce trio d'attaque? Parce qu'on voit un peu de tout ici en France, c'est des trucs assez bizarres. On a une LSD en ce moment ici.
Ouais,
Messi est devenu Lionel.
Mais bon, je crois qu'ils ont arrêté en fait à Barcelone. Je crois qu'ils ont fait MSD
ou
ils
voilà.
ont tenté de faire plusieurs combinations possibles. Mm-hmm. Mais je crois que non, que
on arrête.
C'est bon là. Bon. Ouais, voilà.
On d'accord. Arrête, c'est prêt. Alors sur le plan sportif maintenant, on y vient. Cette vieille dame, quand même, elle a laissé quelques souvenirs au Barça puisqu'elle les a éliminés l'année dernière en quart de finale.
Mais il y a une sorte de revanche voilà. côté Barcelone.
Parce qu'en même temps, les Blaugrana, eux, ils avaient quand même battu, on s'en souvient, la Juve en finale en 2015. Sur le score de 3-1. Alors, faut-il redouter finalement cette confrontation? Parce que l'année dernière, c'était terminé sur un 0-0, hein, oui, le match retour, alors qu'il y avait eu 3-0 au match aller. Eh bien, écoutons la réponse de l'entraîneur du Barça, Ernesto Valverde.
La Juve est une grande équipe, c'est certain. Nous ne nous sommes toujours pas remis vraiment de notre élimination de la saison passée. Nous avons pleinement conscience de leur qualité dans la construction du jeu. Ils mettent beaucoup d'intensité. Ils nous ont créé de grandes difficultés la dernière fois. On doit étudier ces aspects et les appréhender en conséquence.
François, ce trio d'attaque, alors on les a vus à l'œuvre un petit peu durant le championnat, c'était samedi soir. C'est probant.
Oui, ah bah oui, bah, évidemment. Alors c'est.
Alors je parle évidemment de Suarez, Messi et Dembélé. Hein.
Ouais, mais ils ont joué 22 minutes ensemble. Alors c'est un schéma un peu différent de ce qu'on pouvait voir avec Neymar, c'est-à-dire que Neymar jouait à gauche, Suarez au centre et Messi commençait à droite. Mais avec une liberté totale dans le jeu. Maintenant, Messi est revenu dans cette position de faux neuf, avec Ousmane Dembélé à droite et Luis Suarez à gauche. Donc ils alternent beaucoup. Et oui, c'est probant. Hein. On a vu l'excellente passe décisive de Dembélé pour Luis Suarez. On sent qu'ils vont s'entendre, les trois. On sent qu'ils vont s'entendre. Dembélé, en plus Dembélé, là, il a eu l'approbation du Camp Nou qui a fait carrément une chanson à son nom. Déjà, c'est assez rare pour un joueur. C'est au son de la Marseillaise. Et c'est une stature qu'on dit ici ilusionante, c'est-à-dire qu'on a envie de le voir, Dembélé, on a envie de le voir sur le terrain, et on a envie aussi, j'entendais Valentina, on a envie de voir aussi le duel entre Messi, qui est quand même à 5 buts en 3 matchs en Liga, et qui est absolument extraordinaire depuis le début de saison, et Paulo Dybala, qui a annoncé comme son successeur, qu'on a vu un petit peu les deux jouer en sélection argentine, et surtout, une information venue d'Espagne, c'est que dans les 2-3 derniers jours avant la fin du mercato, le Barça, le frère de Dybala a proposé Dybala au Barça, qui l'a refusé en disant que le Barça n'était pas, que Dybala n'était pas compatible avec Messi. Donc on va voir ce soir le duel à la distance entre Dybala et Messi. Oh,
oui, encore c'est maintenant sur les journaux italiens, ils l'ont appelé l'antipuce. L'essence, ouais. Parce qu'il est
Messi. Ouais.
Pour moi, il est encore très loin. Ouais. On l'a vu dans la finale face au Real Madrid, ouais. Qui a complètement raté sa finale. Gérer les événements aussi, c'est important. Et pour Dybala, qui est considéré comme l'héritier de Lionel Messi, c'est jamais facile à porter, hein, lorsque vous êtes dans la Ligue 1.
Il est jeune, Habib.
Non, bien sûr qu'il est jeune.
Il a de la marge,
on a vu dans cette finale face au Real que malheureusement Dybala a été, pour moi, pas à la hauteur de l'événement. Donc il faut lui laisser du temps pour devenir Lionel Messi, mais il n'est pas encore Lionel Messi.
Pas à la hauteur de l'événement.
Franck, vous y croyez une facilité de ce trio d'attaque ce soir?
Lequel du Barça?
Du Barça.
Bah, je pense qu'ils vont effectivement poser des problèmes à la défense.
Il y aura pas Chiellini en plus, hein, je me trompe.
Ouais.
Pas, hein.
Ah, je pense qu'ils vont poser des problèmes à la Juventus, à la défense, qui est donc on l'a expliqué en reconstruction. Mais je pense que le trio sud-américain, on peut attendre un trio sud-américain du côté de la Juve devant, et je pense que ce trio peut aussi poser des problèmes au Barça.
Ouais, la chose, c'est que là, les dernières heures, il y a un changement au milieu. Dans le sens, Allegri devrait utiliser un 4-3-3. Et il y a Betancourt, qui est un jeune uruguayen qui est arrivé récemment à la Juve et qui va jouer avec Matuidi et Pjanic.
Bah, est-ce qu'il aura le vécu de la Ligue des Champions?
Ouais.
Ça, c'est ça aussi.
Moi, Moi, je vois un carton du Barça ce soir.
Ouais.
Non, je vous le dis. Je vous le dis réellement.
Il a une boule de cristal aujourd'hui.
Non, c'est pas ça. Alors, je vois plein de choses, mais en général, je suis très mauvais en pronostic. Donc, ne me suivez pas
un
pour
carton,
parier.
Un carton, c'est quoi? Deux, c'est... trois?
Non, je pense que le Barça va en mettre, trois minimum. Je me dis que la première titularisation de Dembélé. Non, c'est un carton. Si demain, ils mettent 3-0 à la Juve, c'est un carton pour le Barça. C'est la Ligue des Champions, c'est la Juve en face, c'est pas n'importe quelle équipe.
François, vous êtes sur cette ligne?
Bah, ça va vite dans le foot. Alors, moi, j'adore Habib dans ses commentaires. Alors, attends, parce que là, il y a une semaine, on disait que le Barça allait prendre une rouste avec contre la Juve. Il a fallu deux bons matchs.
Là, il y a beaucoup d'absents. C'est ça aussi.
Mais bon, moi, je compte au-delà des qualités du Trident, Dembélé, Suarez, Messi, la solidité défensive retrouvée du Barça, qui était un peu son talon d'Achille l'an passé. Umtiti a un niveau extraordinaire, Piqué est revenu. Et c'est vrai que Busquets, vous l'avez dit, lui aussi est revenu. Donc le Barça paraît solide. Et peut-être qu'un joueur comme Paulinho, qui a quand même été beaucoup critiqué lors de sa signature, pourra aussi apporter dans le duel physique, parce qu'en face, il y aura aussi du répondant avec Blaise Matuidi notamment.
Alors pour la Juve, qui a donc disputé quand même deux finales en deux ans, deux finales malheureuses, il faudrait repartir pour essayer de se hisser de nouveau en finale et qui sait, la gagner. Et c'est une bonne motivation pour Massimiliano Allegri.
C'est la 12e fois que je vais me retrouver en face de Lionel Messi. Pour le Barça, c'est un atout. Pour nous, c'est une motivation supplémentaire pour l'affronter et essayer de l'arrêter. Ce sera notre premier match de Ligue des Champions. Après notre belle aventure la saison dernière, qui s'est malheureusement terminée sur une déception. Nous prenons un nouveau départ et nous devons le faire avec enthousiasme et la volonté de sortir des phases de poule. Ce sera donc un match fascinant.
Ah oui, alors un match fascinant, ça on s'en doute. Il a un record des confrontations.
Oui, c'est l'entraîneur italien qui a joué plusieurs fois contre le Barça, 12 fois. Mm-hmm. Quand même, ça fait de l'expérience, on peut dire.
Ça fait de l'expérience et surtout, ça fait peut-être s'améliorer encore un peu plus, Franck, la science tactique à l'italienne.
Oui, moi je suis assez... admiratif, voilà. Je cherchais le mot. Je suis admiratif. Je partage pas du tout le
feeling
d'Habib.
Tu as raison. Je te dis, je suis mauvais en pronostic. Non, tu as raison de pas le partager.
Non, mais dans le sens que je trouve que ça, c'est pas ça qui peut faire la différence, quoique. Et n'oublions pas que c'est pas une finale, c'est pas une demi-finale. Oui. C'est un premier match de poule, c'est une formule championnat.
Oui, mais c'est donc, les deux plus on va dire les deux leaders
Annie, on est en train de faire de ce match
qui veulent terminer premier.
Oui, on est en train d'en faire déjà une finale avant l'heure. Pourquoi pas? Sauf que c'est le premier match, gros match européen pour eux, quoi. Donc
j'ai du mal à penser que ces équipes-là réellement calculent sur ce type de match. Je pense que la Juventus de Turin est programmée pour tout gagner et le Barça également. Donc on a des équipes aujourd'hui qui arrivent en Ligue des Champions, comme tu dis sur le premier match. Exemple Celtic. Si le Celtic aujourd'hui prend un point face à Paris, ça sera intéressant. Mais c'est intéressant, c'est un point qui compte. Ouais. Le Barça ou la Juve, il y a pas de point qui compte. C'est trois points et c'est comme ça. C'est dans leur culture,
plus,
c'est dans leur ADN.
Plus la manière, plus ce que tu disais.
Et je pense que réellement, avec tout ce que le Barça a subi pendant cette intersaison, avec tous les colibets qu'on a pu dire sur cette équipe et les critiques qu'on a sur ce président et sur les joueurs. Rappelez-vous qu'on a quand même remis en question Messi. On a dit que Neymar partait, que c'était le meilleur joueur de l'attaque du Barcelone qui s'en allait et que Messi allait être orphelin.
Ça, c'est
on voit que Messi, il est orphelin de personne depuis le début de saison. Et lui, il calcule pas. Donc je pense qu'il y aura vraiment un sentiment de revanche et surtout de montrer
paraître,
à tout le monde
que
Neymar est parti. C'est la vie d'un club et que le Barça continue à vivre sans Neymar. Et il le montre depuis le début de saison. Et je pense qu'ils vont vouloir marquer un grand coup.
Il faut que Valentina nous rassure alors sur la...
Oui,
Valentina,
et que vous nous parliez de Matuidi.
Oui, bah ça va, ça s'intègre,
ça se passe bien l'intégration.
C'est bien, oui, ça se passe très bien. Je veux dire, Allegri il a fait débuter du premier match, il est rentré en cours de jeu et là le dernier match il était titulaire, donc ça va, ça avance. C'est quelqu'un de très important pour lui au niveau du chemin tactique parce que ça lui permet d'échanger, de varier. C'est une chose très importante. Après, c'est à mon avis ce soir un joueur qui va très manquer à la Juve, c'est Mandzukic parce que c'est quand même quelqu'un de qui peut avoir vraiment un poids différent, surtout sous les coups de pied arrêtés et tout ça, ça va être un peu la différence à mon avis.
Une autre rencontre entre Espagnol et Italien importante, c'est à Rome, la Roma qui reçoit
l'Atlético Madrid. Parce derby que Simeone comme ancien de la Lazio, ouais. Comme ancien de la Lazio, là, et Di Francesco, qui est ancien de la Roma, c'est un peu un derby entre eux, je veux dire, à Roma. Ce genre de choses, ça en sent toujours beaucoup.
Ouais. Et alors, la Roma va recevoir un Atlético Madrid où, finalement, Antoine Griezmann est un peu sevré de rencontres, François.
Bah oui, parce qu'il avait été expulsé contre Las Palmas, si je me souviens bien.
Au bout de 20 minutes, je crois.
Oui, mais bon, bah au moins il sera prêt, Griezmann. Et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Griezmann depuis le début de saison. Il est encore là, Griezmann. On l'a vu avec l'équipe de France. L'Atlético, on le rappelle, qui a interdit de recrutement, donc ils n'ont pas pu se renforcer, notamment Diego Costa qui devait revenir. Et c'est une équipe solide. Les joueurs jeunes comme Saúl, Correa, dans Correa, je ne sais plus comment il s'appelle, l'attaquant argentin devant, mais ils ont un an de plus, donc ils ont beaucoup plus d'expérience. Et c'est une équipe toujours hyper bien maîtrisée par Diego Simeone, qui a prolongé son contrat avec l'Atlético. La semaine prochaine, ils rentrent dans leur nouveau stade, le Metropolitan Stadium, qui a plus de 60 000 places. Oui. On va voir. Ils feront partie des trois, je pense, à la fin de saison. Je pense pas qu'ils pourraient être champions, mais ils vont avoir beaucoup de renforts en janvier, la fin de l'interdiction de la FIFA. Mm-hmm. Et ce soir, c'est un premier gros test, c'est comme le Barça. Et contre une Roma de Monchi, l'ancien directeur sportif de Séville, qui a déjà sa patte, je crois, au Mercato.
Franck ?
Moi, j'avais une question pour François, parce que je suis assez fan d'un des... D'ailleurs, j'aime bien l'Atlético Madrid, mais surtout, je suis fan de Thomas Partey, le Ghanéen. Est-ce qu'il a des chances de débuter, ou il sera encore en renfort pour entrer après l'heure de jeu ?
Bah, lui, il monte en puissance, Thomas Partey. Moi aussi, je suis complètement fan. C'est un jeune joueur ghanéen qui peut jouer à 5 positions différentes. Et il a vraiment, c'est un vrai soldat, et Simeone l'adore. Alors, il le faisait jouer de manière sporadique ces dernières années, mais là, le dernier match en championnat, il a été élu homme du match.
Alors qu'il sortait d'un gros match en équipe nationale. Hein. Il a mis 3 buts quelques jours plus tôt.
Exactement, avec le Ghana, il a été très, très bon aussi. Et donc là, on est face à un phénomène, je pense, dans les prochaines années. Un joueur vraiment typique Simeone, discipliné, il perd pas le ballon, puissant, rapide, endurant. Thomas Partey, qui peut effectivement avoir une possibilité de commencer le match, mais il y a du monde, l'Atlético. Il y a Saúl, il y a Koke, il y a Gavi. Ce sont des joueurs vraiment de très très haut niveau. Et en plus, aux côtés de ces joueurs-là, Thomas Partey progresse. Donc c'est vraiment un joueur vraiment du futur, Thomas Partey.
Merci beaucoup, François David, d'avoir été en direct de Barcelone. Et eh bien, on se retrouvera pour évoquer le Barça très bientôt et les autres clubs espagnols. Merci.
Merci.
On va terminer sur le Bayern Munich. Le Bayern, autre grand de ses prétendants au trophée européen, qui se retrouve dans la poule du Paris Saint-Germain, eux jouent à domicile et ils reçoivent Anderlecht. Alors, Anderlecht, c'est certes un mauvais souvenir pour Lyon, mais peut-être qu'ils vont pas mettre en danger cette équipe des ogres bavarois. Sauf que cette équipe du Bayern vient de perdre à domicile. Habib, ça va pas trop bien du côté du Bayern, parce qu'il y a des joueurs qui ont fait un peu entendre leur voix.
Oui, ça va pas bien du tout sur le terrain en termes de performance, et ça va surtout pas bien en dehors, parce que Lewandowski a fait par exemple une déclaration, il a été remis en place par Rummenigge. Et par contre, après c'est Lyonnais qui lui s'en est pas pris à Lewandowski, mais il s'en est pris au jeu, donc un petit peu à Carlo Ancelotti. Et un peu à Thomas Müller. Il y a le cas Ribéry qui fait aussi débat, parce qu'on dit qu'il n'est pas forcément à son meilleur niveau, il a la confiance d'Ancelotti. Moi, je fais confiance à un entraîneur comme Ancelotti, je crois qu'il est en train de préparer cette équipe, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, et il faudra qu'ils se fondent dans le collectif. Ça reste une machine pour moi qui sera sûrement à l'arrivée, parce que le Bayern est impressionnant de rigueur. Maintenant, ils ont des difficultés en début de saison. Ils ont perdu 5 matchs sur 6, matchs amicaux, je parle, en pré-saison. Et ça, c'est assez incroyable de la part du Bayern.
Ils viennent de perdre à domicile face à Hoffenheim.
À domicile.
Certes, leur bête noire, mais c'était pas non plus...
Non, mais c'est surtout dans le jeu que ça a été inquiétant, face à Hoffenheim.
Ils vont se rassurer ce soir. C'est là que je vois le carton. Vous voyez.
Mais là, aujourd'hui, je suis sûr que ce soir, il y aura carton face à Anderlecht.
Là, Franck, vous êtes confiant dans cette équipe du Bayern.
Oui, je trouve que l'analyse d'Habib, c'est la bonne. Et puis Anderlecht, je pense que ça va leur permettre justement, c'est le type d'adversaire adversaires pour les remettre. Voilà, et de se rassurer, de rassurer le public, de rassurer leurs dirigeants, même si je pense que les dirigeants, en vérité, ils doutent pas trop du potentiel. Et puis, puis les joueurs de montrer, surtout s'il y a un petit peu de turnover, on sait jamais. Donc, ouais, le Bayern devrait pas trembler très longtemps contre Anderlecht.
Valentina, Habib dit qu'il fait confiance à Ancelotti. Pourtant, il y a quelques critiques autour d'Ancelotti.
Oui,
il y a même des rumeurs disant qu'il pourrait partir.
Oui, bah, lui, il a démenti tout. Il a dit qu'il n'ira pas en Chine en janvier. Chose que je pense soit plutôt vrai. Oui, oui. Je vois pas un mec comme Ancelotti aller en Chine. Je veux dire, il n'a pas d'essence. Au pire, on les reprend, nous, une équipe d'Italie, si vraiment il veut quitter le Bayern. Mais au-delà de ça, Eric Olade, je pense qu'il ne faut pas que ça se crée une fracture entre l'entraîneur et les groupes. Là, c'est très important, les matchs de ce soir, dans ce sens-là.
Oui, dans ce sens de remettre finalement en ordre de bataille le Bayern. Qui... Oui. Est-ce qu'il reste pour vous, est-ce qu'il est cette année particulièrement, un prétendant au titre, Habib ?
Oui.
D'accord.
Oui, je pense qu'ils le sont tous les ans. C'est une machine à gagner.
Non, ils le sont tous les ans, mais il y a des moments où les équipes sont un peu plus...
Ce qui est sûr, c'est que l'écart s'est resserré, je pense. On aurait pu penser que le Bayern soit supérieur au PSG en termes d'expérience, en termes d'effectifs. Je pense que là, le Paris Saint-Germain, en termes d'effectifs, est pour moi supérieur au Bayern. Le déficit, par contre, d'expérience pour le PSG dans ces grandes compétitions. Et moi, je parle surtout... pas en phase de poule, dans les phases d'élimination directe, parce que les phases de poule, le PSG va sûrement sortir. C'est quand vous arrivez au 8e et vous savez, c'est des matchs couperets, le Bayern, le Real,
la différence,
le Barça,
c'est peut-être le gardien,
toutes ces
Habib
équipes-là,
aussi,
voilà,
tu vois.
Sont... Non mais je suis tout à fait important. D'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec
si
toi.
Si c'est Neuer dans le but du Paris Saint-Germain, c'est pas forcément Areola, avec tout le respect qu'on lui doit, il est international français, mais je pense que Neuer...
Non mais le Bayern sera à l'arrivée, ouais. Et ce soir c'est carton parce qu'Anderlecht a une équipe jeune, et ça sera difficile pour eux d'exister à l'Allianz Arena.
Il y a d'autres matchs ce soir, à Manchester United, FC Bâle, Benfica, CSKA Moscou, et puis on a aussi un Chelsea Karabakh avec cette équipe qui fait ses débuts, enfin un Olympiakos Sporting Portugal
avec un ami comorien en la pointe de l'Olympiakos, Ben Fardou.
Et Mourinho is back. Ça, c'est une bonne
exactement
chose pour la Ligue des Champions.
Il est back, il revient à la maison comme il nous a dit tout à l'heure. On se retrouve donc après tous ces matchs dans Radio Foot et vous aurez une soirée Ligue des Champions spéciale avec tout le monde. Merci à David Finzel et Guillaume Ploquin, à tout à l'heure.